de commerce,
c'est
voilà, une sorte de tutorat, c'est-à-dire en effet, c'est des gens qui sont très très loin de ces idées-là, qui souvent d'ailleurs ne savent pas que ces grandes écoles existent, et on va les aider, on va aller les voir dans les lycées, on va leur dire tu sais, toi aussi, tu peux le faire, et on les accompagne jusqu'au concours, ils réussissent au concours, et voilà, et c'est très bien.
Mais il ne faut pas qu'ils deviennent aseptisés. S'ils prennent les codes de leurs camarades et qu'ils ressemblent à leurs camarades, elle est où l'intérêt de la diversité? Donc, qu'ils soient parrainés, qu'ils aient du coaching, du mentorat de la part de leurs camarades pour comprendre les codes, mais en même temps, ils doivent rester eux-mêmes avec leur histoire, avec leur culture. Et c'est ça qui va rendre un peu de porosité. Si aujourd'hui, tous les jeunes qu'on voit rentrer s'habillent, se comportent exactement comme leurs camarades d'autres milieux, alors à un moment donné, on se retrouve avec des clones. Et le danger, il est là aujourd'hui.
Alors, différentes mesures pour lutter contre les discriminations, notamment une à l'embauche, CV anonyme. Oui. On en est où, Sonia?
Le CV sans nom, sans photo, ni âge, ni adresse, ça fait des années qu'on en parle. En 2006, les députés français avaient voté ce CV anonyme pour le rendre obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, sauf que le décret d'application n'a jamais été publié et le CV anonyme a finalement été enterré. Le MEDEF, les DRH n'en ont jamais voulu. Alors, des réseaux sociaux, certains experts le disent aujourd'hui dépassé. Pourtant, d'après le sociologue Jean-François Amadieu, président de l'Observatoire des discriminations, il aurait montré son efficacité dans d'autres pays européens comme l'Allemagne, la Suède ou encore les Pays-Bas. Les Pays-Bas où certaines entreprises ont choisi de tester une nouvelle méthode assez étonnante, le recrutement à l'aveugle. Alors la règle est simple, à compétence égale, c'est le premier arrivé qui a le job. Alors c'est pas applicable pour tous les jobs évidemment. D'autres expériences ont été menées en France comme le CV vidéo ou alors les entretiens dans le noir complet, ça existe. L'expérience vient d'être menée à Nice récemment. Qu'est-ce que vous pensez de ces méthodes, Dominique Sopo?
C'est très écolo de ne pas utiliser l'électricité. comment dire, ça vient marier plusieurs problématiques. En tout cas, je pense qu'il est toujours intéressant de se poser des questions sur la façon dont on recrute. Et que, en fait, ça peut faire sourire comme ça. Alors, je ne sais pas si le CV dans le, l'entretien dans le noir. Mais nous, par exemple, nous avions soutenu le CV anonyme comme mesure. C'est même nous qui l'avions beaucoup soutenu à une époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est un peu dépassé. En partie avec les réseaux sociaux, il peut y avoir une remise en cause de la pertinence de cet outil. Mais le CV anonyme, ça n'est pas pour que la personne reste anonyme jusqu'à l'embauche. C'est pour que déjà, dans la sélection, dans la première sélection, il puisse y avoir quelque chose qui se fait a priori sur la base des seules compétences.
Voilà. C'est pour passer la première étape qui est la plus discriminatoire.
C'est la première étape, mais je pense que de façon plus générale, ce qui me semble important, c'est que les entreprises est un stock, quelque part, de pratiques non discriminantes de recrutement sans qu'il y en ait forcément une qui soit unique.
Oui, mais ça c'est la responsabilisation. Alors, Olivier Babou, est-ce que le CV anonyme, c'est une première étape pour vous? Ou est-ce que là aussi, vous êtes très réticent?
On va dire pourquoi pas. La réalité, c'est que beaucoup de CV aujourd'hui, surtout sur les candidatures spontanées, sont regardés par des ordinateurs. Et en fait, il y a des mots-clés. En fait, vous allez regarder des mots-clés et les autres sont impitoyablement enlevés. Donc, il faut juste avoir la bonne ligne sur le CV. Ça pourrait être un début parce que vous savez que c'est intéressant. Il y avait une étude qui avait montré que les jolies filles avaient 30% de chances de moins d'être convoquées à un examen. Pourquoi? Parce qu'on arrivait chez des gestionnaires de ressources humaines qui sont en grande partie des femmes. Il paraît qu'elles sont extrêmement jalouses. Donc, comme quoi, parfois, être jolie, ça peut aussi être, c'est une vraie étude, ça peut être négatif. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sélections qui sont beaucoup plus dures. À la fin, il va bien falloir être devant quelqu'un. On va bien recruter un nom, on va recruter quelqu'un. D'ailleurs, en général, on va aller regarder toutes ces traces sur les réseaux sociaux, on va taper son nom sur Google. Donc ça, c'est beaucoup plus important. Ce qui veut bien dire qu'à la fin, il va falloir changer les cultures et que c'est bien quelqu'un de différent qu'on va devoir vouloir recruter.
Gardons du temps pour Catherine.
En fait, Sévanini avait été une très bonne initiative, mais qui n'a plus vraiment sa raison d'être aujourd'hui.
Pourquoi?
Pour les grands groupes, d'abord, parce que c'est extrêmement centralisé en termes de recrutement. Donc ça passe par des outils, ce que vous avez
algorithmes et autres.
Alors algorithmes, en tout cas, vous saisissez votre CV en ligne, et tout le monde le fait. Donc déjà, on a nos mises de fait, on ne demande plus la civilité, on ne demande plus l'adresse, un certain nombre d'éléments qui sont stockés. Le fait de l'avoir rendu obligatoire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, majoritairement? Ce sont des patrons et des patronnes de PME de TI qui recrutent. Ce n'est pas les grands groupes. Vous imaginez, effectivement, patron de PME de 50 sur 300 salariés, prendre le CV? Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un de neutre qui le gomme. C'est-à-dire qu'il faut tout gommer. faut enlever, déféminiser, si c'est féminisé, la lettre de motivation, pour avoir quelque chose de neutre, pour pas savoir si c'est un homme ou une femme, et si finalement il s'appelle ou elle s'appelle Mohamed, Fatima, Isabelle ou Kevin. Donc ça ne fonctionne pas.
Donc ça ne fonctionne pas. Très bien.
C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, à partir du moment où on impose des formations, des sensibilisations, qui étaient l'objet de la loi. Avec la loi El Khomri, c'est ce qu'on avait imposé. On faisait partie avec Dominique des groupes de travail.
Merci.
Là, effectivement, vous pourrez avancer là-dessus.